Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Aux Philippines, des régions entières restent encore coupées du monde après le passage d'un typhon d'une puissance inédite. Les autorités semblent dépassées par l'ampleur de la catastrophe et le nombre de survivants à secourir. Le pape François invoque les dons divins de la force et de la consolation pour cette nation. Les Caritas sont mobilisés, c'est la une de ce magazine. Parmi les autres titres, la fin de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Et en fin d'émission, l'invité de ce dimanche sera Mgr Claude Dagens, évêque et membre de l'Académie française, actuellement président du groupe de travail sur l'indifférence religieuse et la visibilité dans l'Église catholique. Le pape François est proche de la population des Philippines. L'archipel a été ravagé par le passage d'un typhon d'une rare puissance qui a provoqué une véritable hécatombe et semé la désolation. Les victimes sont nombreuses, les dégâts énormes. Le souverain pontife a profité de la prière de l'Angélus ce dimanche à midi pour inviter les catholiques à prier pour les personnes touchées par cette tragédie et à s'efforcer de leur faire parvenir une aide concrète. Il a demandé aux quelques 60 000 personnes massées sur la place Saint-Pierre de prier en silence. Par l'intermédiaire du secrétaire d'État Mgr Parolin, le pape François a fait également parvenir un télégramme de condoléances au président philippin Benigno Aquino. C'est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire récente des Philippines, le pays le plus catholique d'Asie. Les témoins décrivent un paysage qui rappelle les destructions causées par le tsunami de décembre 2004 en Asie. Les Caritas du monde entier, dont le Secours catholique en France, sont mobilisés pour répondre à l'appel à l'aide lancé par la Caritas des Philippines, dont les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Dans les zones les plus touchées, celle-ci est épaulée par la Caritas américaine, tandis qu'à Rome, Caritas Internationalis suit de près la situation, mais il est actuellement très difficile, voire impossible, de communiquer avec les zones les plus reculées de l'archipel. Écoutez Sébastien Dechamp, responsable des urgences internationales au Secours catholique.
D'après les informations que nous avons et que diffusent également les médias, mais aussi nos partenaires sur place, on est face à une catastrophe majeure. Dans une zone en plus qui était déjà fragilisée par un tremblement de terre qui avait frappé cette région il y a à peu près un mois, en octobre. Mais pour l'instant, personne n'est capable de faire face à une telle tragédie et personne ne serait capable de faire face à une telle tragédie avec toute l'efficacité nécessaire. On est dans un pays avec des multiples îles. Les moyens de communication, que ce soit avion, route, etc., mais aussi téléphone et information, sont complètement perturbés, voire anéantis. Alors il y a pas mal d'acteurs qui sont sur place. En l'occurrence, Caritas Philippines est une organisation efficace et rodée au traitement des opérations d'urgence. Elle est appuyée aussi par la Caritas d'Amérique du Nord. Et donc la première chose qu'on fait dans des situations comme ça, c'est envoyer sur place le plus rapidement possible des équipes qui évaluent la nature des besoins et qui déjà apportent à elles des premiers éléments de réponse, c'est-à-dire notamment des bâches pour créer des petits abris de fortune en attendant mieux, et aussi de quoi potabiliser de l'eau, parce que l'eau, c'est tout de suite un énorme problème dans des crises comme ça. Donc voilà, ce sont des premiers secours qui se mettent en route, en même temps que des diagnostics aussi pour mettre au point des programmes à ce moment-là plus importants pour les jours et semaines qui viennent.
Sébastien Dechamp, responsable des urgences internationales au Secours catholique. Comme chaque semaine, la place Saint-Pierre était bondée ce dimanche à l'heure de l'Angélus, et le pape François en a profité pour évoquer le 75e anniversaire de la Nuit de Cristal, le pogrom de 1938 contre les juifs allemands. Ces violences, a-t-il souligné, ont marqué une triste étape vers la tragédie de la Shoah. Olivier Tosserie.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des synagogues furent incendiées, des commerces tenus par les juifs et leurs maisons saccagées. 90 membres de la communauté juive allemande furent tués, 30 000 hommes arrêtés puis déportés. Ce dimanche, le pape a tenu à renouveler sa proximité et sa solidarité avec les membres du peuple juif, nos frères aînés. Lui, qui l'année dernière avait organisé une cérémonie commémorative de la nuit de cristal dans sa cathédrale de Buenos Aires, Jorge Bergoglio a toujours entretenu des relations très chaleureuses avec la communauté juive Argentine, la plus importante de l'Amérique latine, et depuis son élection, il a multiplié les rencontres avec des représentants juifs. Devant une place Saint-Pierre noire de monde, il a invité les fidèles à prier pour que la mémoire du passé, les péchés du passé, nous aide à rester toujours vigilants face à toute forme de haine et d'intolérance. Le pogrom organisé par le régime hitlérien en novembre 1938 révéla au monde sa violence antisémite. Il est considéré comme le signe avant-coureur de la solution finale qui sera mise en œuvre contre les Juifs d'Europe. Samedi, dans un message vidéo, Angela Merkel a qualifié ces événements de pires moments de l'histoire allemande. Toujours samedi, à l'appel des églises catholiques et protestantes, une grande marche a réuni des centaines de personnes à Berlin. Les participants ont plaidé pour la dignité de chaque personne, quelle que soit sa culture ou sa religion.
Ce dimanche, on célébrait en Italie la journée du remerciement et le pape François a exprimé sa proximité avec le monde agricole, surtout avec les jeunes qui ont choisi de travailler la terre. Il a encouragé ceux qui se prodiguent pour que personne ne manque d'une nourriture saine et appropriée. Auparavant, commentant l'évangile de ce dimanche, le récit des Sadducéens qui veulent mettre Jésus en difficulté et ridiculiser ceux qui croient en la résurrection d'entre les morts, le souverain pontife a relevé que les humains pensent que le chemin de l'homme va de la vie vers la mort. Jésus renverse cette perspective et affirme au contraire que notre pèlerinage va de la mort vers la vie en plénitude. Enfin, le pape François a profité de sa rencontre dominicale avec les fidèles pour évoquer la béatification en Allemagne de Marie-Thérèse Bonzel, fondatrice au XIXe siècle de l'Institut des pauvres sœurs franciscaines de l'adoration perpétuelle. C'est dans l'Eucharistie qu'elle puisait son énergie spirituelle pour se consacrer aux plus pauvres, aux malades et aux orphelins avec une charité inlassable. L'Assemblée plénière d'automne des évêques de France est achevée à Lourdes après 6 jours de travaux. L'ordre du jour était chargé. Les évêques ont ainsi abordé des sujets graves et essentiels tels que la formation des prêtres, l'Europe victime de la désespérance ambiante ou encore l'avortement, banalisé mais jamais anodin. Dans un message très apprécié des évêques français, le pape François les a invités à se mettre au service de l'homme et en particulier des plus délaissés. Dans son discours d'ouverture mardi, le nouveau président de la conférence, Mgr Georges Pontier, avait mis l'accent sur les questions sociales. Peut-on dire qu'après la vaste mobilisation contre le mariage pour tous, l'attention de l'Église de France passe du sociétal au social ? Antonino Gallofaro a posé la question à Mgr Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France.
On passe pas vraiment de l'un vers l'autre parce que quelque part le sociétal demeure aigu. Même si des lois ont été votées, et nous sommes en démocratie, nous savons que des lois ont été votées, il n'empêche que la conscience, elle demeure vigilante. On peut continuer à avoir une conscience en désaccord complet avec une loi, même si elle a été votée. Et donc le croyant doit demeurer en veille, parce qu'il y a la fin de vie qui est en perspective, il y a toujours ces graves questions de procréation, il y a tout ce qui a été fait cet été sur l'embryon, et je pourrais citer encore d'autres sujets. Donc il y a du sociétal qui demeure. Il n'est pas du tout éludé, bien au contraire, il faut demeurer vigilant. Et effectivement, il y a du social. Pourquoi du social ? Parce que la crise frappe fortement, il y a une litanie de plans sociaux. Cette semaine encore, tandis que nous étions à Lourdes, il y a le Secours catholique qui publie à nouveau un rapport plein d'inquiétudes. Et finalement, il n'est pas surprenant que sociétal, social, pastoral soient intimement liés. Nous avons besoin d'être présents à nos frères.
C'était Mgr Potvin, porte-parole des évêques de France. Et dans son discours conclusif, ce dimanche, Mgr Pontier a prononcé un véritable plaidoyer en faveur de l'Europe, tout en reconnaissant qu'il reste du chemin à faire pour une meilleure forme de gouvernance. Le président de la Conférence des évêques de France a mis en garde contre le risque de faire de l'Europe le bouc émissaire de la crise actuelle. Cela serait, a-t-il dit, gravement irresponsable. Dans un contexte de mondialisation, les défis actuels ne peuvent pas être relevés sans développer la solidarité entre les États membres. Les évêques américains se réunissent quant à eux du 11 au 14 novembre à Baltimore pour leur assemblée d'automne. Les travaux seront inaugurés par le président sortant, le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, et par le nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Vigano. Les évêques dresseront notamment le bilan de leur campagne en faveur de la défense de la vie, du mariage et de la liberté religieuse. Ils étudieront par ailleurs un projet de déclaration sur la pornographie. Ils devront également procéder à l'élection de leurs nouveaux dirigeants. Des débats qui se dérouleront, selon les observateurs, avec en toile de fond ce que l'on appelle désormais l'effet François, à savoir le nouveau style et les priorités du premier pape américain de l'histoire, un pape qui insiste beaucoup sur l'engagement en faveur des plus pauvres et moins sur les questions morales. Un congrès sur les origines de l'univers aura lieu lundi à Rome à l'initiative de l'Université pontificale grégorienne en collaboration avec l'Observatoire du Vatican. Le thème sera affronté sous l'angle scientifique, philosophique et théologique. Les promoteurs insistent sur l'importance d'une approche interdisciplinaire. Le rapport entre foi et science doit être abordé, selon eux, en termes de dialogue. Une deuxième journée consacrée, elle, à la fin de l'univers aura lieu le 31 mars 2014. Cette semaine à Rome avait lieu la conférence inaugurale du parcours philosophique et théologique organisée par l'Institut de France, Centre culturel Saint-Louis, et c'est l'archevêque d'Angoulême, Mgr Claude d'Agens, qui l'assurait. Il a écrit de nombreux ouvrages et parmi les derniers on peut citer « Catholique en France, réveillons-nous chez Bayard », ainsi que « Catholique et présent dans la société française, foi en Dieu et démocratie » également chez Bayard. Mgr Claude d'Agens s'est interrogé par Catherine Aubin.
Père Claude d'Agens, vous êtes évêque, évêque d'Angoulême, membre de l'Académie française, et dans un de vos livres, vous écrivez « Nous croyons que la cause de Dieu est liée pour toujours à la cause des hommes ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
C'est un acte de réalisme et de foi chrétienne, mais ce n'est pas évident, parce que c'est une grande conversion que j'apprends moi-même à pratiquer, en se situant nous-mêmes comme chrétiens sur le terrain de notre humanité commune. Nous avons à être chrétiens dans une société qui n'est plus chrétienne, qui n'a plus de référence chrétienne, mais si nous voulons manifester la nouveauté chrétienne, nous ne pouvons le faire qu'en participant à l'humanité commune telle qu'elle est. Et en même temps, c'est une question que je vais formuler à ma manière. Qu'est-ce qui fonde la défense, l'affirmation et la défense de notre dignité humaine, notamment pour les personnes les plus fragiles. Et comme vient de le dire mon ami Georges Pontier, nous avons à partir des pauvres, parce que ce sont les pauvres, les gens démunis et humiliés, qui nous révèlent la dignité humaine dans toute sa profondeur et, comment dire, et sa beauté en même temps, et qui nous révèlent cela et qui nous apprennent à la fois à aimer et à être aimé. Ce combat pour la défense et l'affirmation de la dignité humaine, c'est un combat indivisible. Il vaut pour l'embryon dans le ventre de sa mère. Il vaut pour la personne âgée ou malade en fin de vie. Elle vaut aussi pour ces hommes et ces femmes que l'on manipule comme des numéros ou comme des pions. Or, je souhaite beaucoup qu'il y ait cette conversion de la conscience chrétienne qui, au lieu de nous situer à l'écart ou en dehors ou au-dessus de notre société commune, de notre humanité commune, nous puissions comprendre que cette société, c'est la nôtre. Ses espoirs, ses peines, ses souffrances, ses douleurs, nous les partageons. L'expérience de la solitude, les évêques la font aussi. Alors, je ne veux pas aggraver la lamentation. Je veux dire simplement de manière positive que nous sommes les disciples de ce Dieu qui dit par la bouche de Jésus à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout être humain qui croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or, que de gens qui se considèrent comme perdus, y compris, et je le vois ces derniers temps, lorsqu'ils ont eu l'impression d'être mis à l'écart de l'Église catholique, fonction des événements de ces derniers mois, qu'ils ont cessé toute pratique religieuse et qu'ils se sentent à la fois exclus et méprisés. Nous sommes les défenseurs de ces rencontres prévues et surtout imprévues qui peuvent donner à des personnes qui se sentent exclues la joie de se sentir reconnues.
Bon, on a l'impression, Père d'Agens, que l'Église, tout ce qu'elle vit en ce moment, est l'occasion d'un renouvellement intérieur. Et je pense aussi que votre visite avec le pape François a dû aussi vous conforter dans cette position.
À m'encourager beaucoup et je l'en ai remercié. Je vis la période actuelle comme un temps de renaissance. Il y a des choses qui disparaissent, qui s'effondrent, qui ne seront plus jamais comme elles ont été. Mais en même temps, il y a des signes de germination. Il y a des naissances. Effectivement, notre situation est difficile et nous avons à être chrétiens dans une société qui n'est plus chrétienne, mais qui est aussi une société devenue très fragile et très dure, et parfois très violente. Alors, il y a des tentations. Première tentation, former un camp retranché, une forteresse assiégée, et on forme une espèce de ghetto. Ou bien alors, si ça va mal, c'est qu'il y a des coupables. Et s'il y a des coupables, il faut les chercher. Et le coupable, c'est la société, l'ambiance sociale, le relativisme et bien d'autres choses qui sont réelles. Mais on ne peut pas se contenter d'accuser le monde. Le pape François le dit admirablement. Il dit « Dénoncer la barbarie du monde ne permet pas de reconnaître Dieu présent dans notre histoire. » Même si le temps d'aujourd'hui est un temps dur, inquiétant, incertain, c'est le temps où, comme dit Madeleine Delbrel, nous sommes reliés à Dieu, du temps présent à la vie éternelle.
Vous êtes évêque depuis plusieurs années et vous êtes aussi membre de l'Académie française. Comment alliez-vous les deux?
Ah, c'est très clair, c'est la rencontre des personnes. La référence, c'est le père Carré. Quand Hélène Carré-Dancos m'a demandé, un mois avant mon élection, d'accepter d'être élu, elle m'a dit « Vous nous ferez une lettre. Et vous nous direz dans votre lettre que si vous êtes élu, ça vous fera plaisir. » J'ai fait la lettre facilement. Et 10 jours après, c'était à la fin du mois de mars, j'étais élu. Alors, l'Académie française, des personnes très diverses. Et les débats autour des mots du dictionnaire, autour de la langue française que nous avons à défendre et à illustrer. Alors, je peux vous raconter, jeudi dernier, chose très beau. Parce qu'on me dit quelquefois, et alors la tradition catholique à l'Académie française, elle est extrêmement présente. Jeudi dernier, nous nous levions et François Cheng demande la parole. Et François Cheng, avec son beau sourire et sa voix cristalline, a dit ceci. « Chers confrères, nous vivons ici une grande communion entre nous, mais il y a une communion encore plus grande. C'est la communion des saints, et étonnement de certains d'entre nous. Et je vous le dis, parce que demain, nous célébrerons la communion des saints. » C'était le jeudi 31 octobre, la veille de la Toussaint. Il y a eu un silence. Je me suis retourné, derrière moi, je suis devant lui, je lui ai dit « Merci, je n'aurais pas osé le dire. » Mais voilà l'Académie française. Alors on dit « Il y a des barrières, il y a, comment dire, les cathos, les non-cathos. » Pas du tout. Et il peut m'arriver de donner le sacrement du pardon à certaines des personnes qui sont à l'Académie française. Alors, je suis heureux parce que je crois pouvoir faire ce que Hélène Carré-Dancos m'avait demandé dès le début. Elle m'a dit « Vous participerez aux travaux, mais vous serez surtout attentif aux personnes, comme le père Carré. »
Ce qui m'amène à vous demander, père Claude d'Agens, la rencontre des personnes et aussi un point sur lequel vous avez insisté, la tendresse. Parce que la rencontre suppose aussi la tendresse. Comment les hommes d'Église reçoivent-ils ce message du pape François et le vôtre à propos de la tendresse?
Difficile, pour de nombreuses raisons. Notamment dans l'Église, nous avons peur de la bonté et de la tendresse. Parce que toute une génération de prêtres et sans doute d'évêques, et aussi peut-être de jeunes prêtres ou de jeunes évêques, ont été formés selon une éducation où finalement la fonction est première. Et la personne, avec sa chair humaine, son histoire humaine, ses blessures humaines, ses joies humaines, la personne vient après ou doit rester méconnue. Il y a comme une distance et quelquefois comme un clivage.
Père Claude d'Agens, quelle est la place de la femme dans l'Église sur tous ces sujets que nous venons d'aborder?
C'est aussi une réalité difficile, parce que nous héritons d'une histoire où il y a eu, une sorte de séparation, de respect mutuel, mais finalement de distance qui accompagnait ce respect mutuel. Il y a une chose fondamentale à faire, qui concerne à la fois les hommes et les femmes, c'est-à-dire de partir de la réalité, non pas de la séparation, mais de l'alliance. Dieu les fit hommes et femmes. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes présentes dans la vie ordinaire de l'Église. Des femmes jeunes ou âgées qui ne parlent pas beaucoup, qui écoutent, qui prient et qui servent. Ça fait partie de l'ordinaire. Beaucoup de femmes dont la présence charnelle est si importante, parce qu'en même temps, elles ont précisément le sens assez spontané de l'alliance, et pas d'abord du pouvoir. Mais du côté des hommes, comment dire, il y a beaucoup d'absence. Il y a beaucoup d'absence. C'est-à-dire que, de cette manière, l'Église manque d'hommes. Comme me disait un ami architecte récemment, la coupole peut s'effondrer. Mais il reste dans la terre de Rome ce signe, les ossements d'un homme, un pêcheur de Galilée. Et si cet homme est venu là, c'est à cause d'un certain Jésus que tout le monde dit être mort, mais que lui déclare vivant. Et puis, le visage du pape François. qui dit tellement sur « il ne faut pas avoir peur de la bonté, de la tendresse de Dieu et de la bonté et de la tendresse que nous devons nous manifester davantage les uns aux autres ».
Et c'est sur cet entretien avec Mgr Claude d'Agens que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.